En décias à toutes, ce mois-ci, dans mes lettres d'Occitanie, c'est Ludovic Massé que je vous propose de découvrir ou redécouvrir. Je suppose hélas que c'est pour très peu d'entre vous qu'il s'agit d'une redécouverte, tellement cet auteur est injustement oublié. Cet oubli est peut-être dû au fait qu'il était un homme du refus et fier de l'être. Il n'hésitait pas à revendiquer le droit à la dissidence, ce que n'accepte pas toujours notre société et le fait payer. Il est né dans les Pyrénées-Orientales le 7 janvier 1900, petit dernier d'une famille de 5 enfants. Le père Sylvain était maître d'école et Françoise, la mère, fille de montagnard aisé. Ludovic connut une enfance libre et heureuse à Évol, cet hameau du Conflans, près d'Olette, dans la haute vallée du Tête, où son père avait été nommé en 1885. En octobre 1900, la famille Massé quitte la pauvre école d'Évol pour Saint-Jean-Plat-de-Corse, en Val-Espire. La vie est ainsi modifiée, et au traitement d'instituteur va s'ajouter celui du secrétaire de mairie et du secrétariat du syndicat du canal d'arrosage. L'enfant grandit dans la maison d'école. Elle n'est pas luxueuse, mais Ludovic est fier d'habiter dans cette maison, une des plus belles du village. Il grandit dans une famille certes rugueuse et pudique dans ses sentiments, mais indulgente, et qui constitue un véritable clan. Du côté Massé, on venait des Fenouillèdes, où l'on parlait gabatch, c'est-à-dire occitan. Le père était né à Cassignan, dans une famille de métayers. Il était peu apte aux travaux des champs, mais avait une bonne tête, ce qui lui avait permis d'étudier au petit séminaire de Perpignan. À l'occasion de pèlerinage, il découvre Chartres et Reims, la splendeur des cathédrales, et renonce au chemin tracé par la famille. Il devient instituteur à l'âge de 25 ans. La mère Françoise était peu instruite, savait à peine lire et admirer son époux. Humble catalane, à la fierté farouche, cette femme simple n'en inspirait pas moins le respect et savait se faire craindre. Ludovic aimait sa mère, mais son père était un vrai dieu, un véritable saint laïque. À Saint-Jean-Plat-de-Corse, Ludovic connaît l'enfance libre de tous les petits villageois dont il partage les jeux et les maraudes. Mais il reste le fils de l'instituteur et ça crée des obligations. Son imagination s'enrichit des récits et des légendes du pays catalan qui nourriront plus tard son œuvre. Il baigne dans la langue catalane que tout le monde parlait à cette époque, les jeunes comme les vieux. Mais la langue française dominait, pratique de rigueur dans le périmètre de l'école. Le catalan restera pour le futur écrivain la langue des émotions, des sensations et des sentiments. Le français sera la langue de tout ce qui touche au domaine de l'esprit. Le salaire de l'instituteur restait très modeste. De cette enfance provinciale et pauvre, il gardera toute sa vie la haine des fausses valeurs de l'argent et du pouvoir et le mépris des possédants, héritiers, notables ou boutiquiers. Le Val-Espire vivait encore un circuit fermé. Il en gardera toujours un attachement qui jamais ne se démentira, admirant la beauté, pour lui unique, de ce terroir. Son frère aîné, Sylvain, qui est aussi son parrain, aura une forte influence sur le petit Ludovic. Sans lui, il aurait pu être un enfant craintif et timoré. Il lui transmet son énergie et son esprit sans concession. Bon élève, il savait lire très tôt, mais l'arrivée au cours complémentaire de Séré s'avère difficile. L'enfant n'est plus protégé par son père et va faire la connaissance du sarcasme et du mépris, auquel il répondra par une attitude agressive. Il se montre actif et ouvert dans les matières où il dispose de quelques dons, et refuse tout effort dans les autres. Les textes du futur écrivain sont souvent lus en classe. Il vit ces moments comme une revanche. En 1916, il se présente au concours de l'école normale de Perpignan. Il y est admis grâce à son devoir de français. Mais il n'aimera pas cette école et en fera le procès. Elle est castratrice, c'est le lieu du dressage et de l'apprentissage au conformisme. L'esprit libertaire et de révolte se met progressivement en place. La contrepartie en est que son sentiment d'être égaré et en marge va s'accentuer. Heureusement, il y a la lecture. Les livres constituent un vaste domaine où on pénètre librement pour des randonnées sans fin. La découverte de Jules Vallès est alors une révélation. Il se nourrit aussi des écrivains du XVIIIe siècle, dont Voltaire. Son frère aîné lui fera aussi découvrir Marcel Martinet, qu'il quelques années plus tard deviendra son ami. Naîtra alors un amour pour Tolstoï et une prédilection pour le naturalisme. Ce goût et cet intérêt pour les livres durera toute sa vie. On en retrouvera les traces sous forme de notes de lecture dans son journal qu'il nommera Escarbilles. Les escarbilles étant, comme vous le savez, ces petits fragments de combustible incomplètement brûlés qui s'échappent des foyers. En octobre 1919, il est nommé instituteur à Cabestany, près de Perpignan. Jeune débutant, il prend sa tâche très à cœur. Il collabore alors au Méridional Sportif, où il tient des chroniques, notamment en tauromachie. La parenthèse du service militaire sera vite refermée. L'armée est un monde de brutes et de sots. Toujours le même esprit libertaire. En septembre 1922, il rejoint son nouveau poste à l'école de garçons de Céré. Le haut du pavé y est tenu par une bourgeoisie de propriétaires terriens qui mène grand train. Les deux institutions de la ville sont le rugby et la corrida. Mais Céré possédait aussi une tradition artistique. Picasso s'y était installé, suivi de Deray, Soutine, Marquet, Matisse ou Herbin. Le jeune instituteur va mettre à profit les émotions culturelles de ce milieu privilégié. Préoccupation fort étrangère aux instituteurs provinciaux de ce temps-là, il entreprend une collection d'œuvres d'art et devient un véritable connaisseur dans ce domaine. Sa sympathie instinctive pour les milieux populaires et une profonde rancœur envers la bourgeoisie vont lui donner une réputation d'anarchiste pro-communiste. Il en sera de même à l'école, où il refuse la hiérarchie et soutient les pédagogies expérimentales. Il s'inscrit alors à l'école émancipée, syndicat révolutionnaire des enseignants. En 1927, le père meurt. Ce sera l'origine des premiers romans. Nous allons maintenant rentrer dans cette œuvre. Ludovic Massé a une idée de l'homme et de l'écrivain qu'il veut être. Il décidera d'écrire selon son tempérament et, paradoxalement, fera du retrait le principe de sa vie. À 28 ans, ses essais littéraires se réduisent à des collaborations, à des hebdomadaires ou des quotidiens. Un bestiaire, le livre des bêtes familières, va clore cette période d'apprentissage. Dès à présent, il va poursuivre sa double tâche d'instituteur et de romancier. en 1929, il songe au roman, ses notations sur la vie d'une communauté villageoise se cristallisent dans une chronique, Fièvre au village, première manifestation de son inspiration catalane et qui va être la source la plus féconde de son œuvre. En mai 1930, il épouse Louise Bassou et reproduit le couple de ses parents. De cette union allaient naître trois enfants. La femme chez Massé, comme chez Giono, est placée sous le signe de la nature. Son œuvre porte l'empreinte profonde de Louise et elle est partout présente. C'est Marie dans le Mazet Zoubel, Marguerite dans la Flamme sauvage, ou encore Jeanne, d'Ombre sur les champs. Cette vision traditionnelle de la femme peut apparaître surprenante chez un libertaire. C'est celle d'un instituteur de la Troisième République, mais les instituteurs ne sont-ils pas les nouveaux prêtres? En 1930, Ludovic va rencontrer Henri Poulaille, et celui-ci va contribuer au lancement des premiers livres. Poulaille est déjà célèbre. Lié à Barbus et à Marcel Martinet, il s'était fait l'apôtre de la littérature prolétarienne. On parlait de lui dans la gauche de l'intelligentsia parisienne qui se dressait face au populisme. Il fonde en 1932 la revue Nouvel Âge et le groupe d'écrivains prolétariens de langue française. Victor Crastre, journaliste à Clarté et à la Révolution surréaliste, instituteur et perpignanais, a mis en contact les deux hommes. Massé cherchait un tuteur et Poulaille répondit merveilleusement à cette attente. Le jeune écrivain avait besoin de conseils mais aussi de renseignements sur le monde de l'édition qu'il ne connaissait pas dans son isolement provincial. La correspondance entre le tuteur et l'élève prend alors une tournure plus personnelle, voire intime. Malgré leurs différences, outre leur amour commun pour la littérature, leur esprit de contestation de la société et des abus de pouvoir, fondement de leur esprit libertaire, les unissait. De décembre 1930 à décembre 1931, dans son bureau, à l'école, Massé écrit la première version de « Versant de la douleur ». Poulaille apprécie et lui dit que ça rappelle Giono en plus musclé. Beau compliment malgré quelques objections. Une deuxième version corrigée et terminée début 1932, le titre en est changé, ce sera le Mazet Zoubel. Le livre est édité chez Grasset, consacrant l'entrée de son auteur en grande littérature. L'accueil du roman est très favorable. Massé est même dans l'écurie de l'éditeur pour le prix Goncourt qui sera attribué cette année-là à Malraux. En plus de la sympathie agissante de Poulaille chez Grasset, Massé reçoit aussi le soutien de Marcel Martinet, qui est lui chez l'éditeur Rieder. Il est rentré depuis 1920 au journal L'Humanité, dont il était devenu le directeur littéraire. Il s'intéressait comme Poulaille à la question de l'écrivain issu du peuple ou de l'écrivain ouvrier, comme on disait alors. Il avait quitté le Parti communiste et l'Humanité en 1924. Quand Massé et Martinet se rencontrent, celui-ci est seul. Ils vont alors échanger une correspondance qui ne s'arrêtera qu'en 1944 avec la mort de Martinet. En 1932, Massé commence l'écriture d'Ombre sur les champs. C'est une tragédie paysanne, comme Fièvre au village et le Mazet Zoubel. Mais le sujet n'est plus centré sur un personnage. C'est le travail de la terre qui intéresse l'auteur, et le personnage central en est le Mas Chanterelle. De plus, le problème moral se politise. Mais le roman déplaît à Poulaille. Le Père Noël est devenu le Père Fouettard, et la critique est acerbe. Martinet va alors faire contrepoids à Poulaille et encourager Massé à persévérer. Après correction, la deuxième version du roman est agréée par Poulaille et parée chez Grasset. La presse est plus que favorable, mais le livre se vend mal. Massé va alors concevoir une véritable trilogie rurale. Il veut peindre le travail âpre dans un pays âpre d'une humanité âpre. Flamme sauvage paraît ainsi chez Grasset en janvier 36. Mais le livre est révélateur de l'ambiguïté idéologique de l'auteur. Il y a dans sa pensée, et c'est souvent le cas chez les libertaires, un mélange un peu confus d'utopie socialiste et de nostalgie rousseauiste. Nissan et Aragon trouvent l'écrivain passéiste et donc quelque peu réactionnaire. La critique est moins élogieuse que pour L'ombre des champs, mais l'auteur ira au bout de sa trilogie. Avant cela, il va écrire, à la demande de la bibliothèque littéraire Jacques Doucet, ses enfances villageoises dans Livret de famille. Ce titre va rallier les suffrages. Massé place sa vie sous le signe de l'héritage et rend hommage à ces gens humbles. C'est ce qu'on peut appeler la tentation prolétarienne du romancier qui va confirmer ses engagements politiques en mêlant sa voix à celle des écrivains du Front populaire, dont Poulaille n'est pas. L'élève va alors mettre une certaine distance avec le maître. Toujours impulsif et passionné, il devient membre du comité de vigilance des écrivains antifascistes. Mais les différentes appréciations portées par les deux hommes sur les événements politiques n'entraînent pas de vraie rupture. Massé ne s'est jamais voulu ni homme à idées ni philosophe. Tout système le rebute. L'anarchie est pour lui une revendication d'individualisme plus qu'une opposition politique. Il va être marqué par la guerre d'Espagne et les trahisons des démocraties et des partis de gauche. Désormais, il va mettre un terme à son engagement politique et retourner à une forme de pessimisme et de misanthropie. Il sera l'homme du refus. En octobre 1937, il envoie à Poulaille le manuscrit de son nouveau roman, Cœur battant. Celui-ci est refusé par Grasset. Roger Martin Dugard, homme de lettres de grand renom et prix Nobel de littérature, écrit spontanément à Massé pour lui dire tout le bien qu'il pense de son œuvre. Cette lettre, début d'une correspondance, donne à l'écrivain un nouvel élan. Une nouvelle amitié va naître. 1940 va être une année charnière où Massé va s'intéresser à la peinture, art qu'il ne pratique pas, mais avec lequel il se sent de plus en plus en sympathie. Nous allons y revenir. Quelques mots donc sur cette passion pour la peinture. 1940, avec l'exode des Français, les peintres sont aussi sur les routes, et serrés et souvent au bout du chemin. Joseph Llorens Artigas, le grand céramiste catalan, s'y est déjà réfugié. Vont arriver Raoul Dufy, Albert Marquet et Pierre Brune, qui va être le fondateur du musée d'art moderne de la ville. Massé va avoir des liens privilégiés avec Dufy, mais la rencontre avec Jean Dubuffet va créer une complicité quasi immédiate. Il est le théoricien de l'art brut, et Massé, comme lui, vont voir dans cet art un authentique art du petit peuple, sans formation ni culture. Plus tard, l'influence du peintre s'exercera dans l'œuvre de l'écrivain. L'administration de Vichy surveille l'instituteur et pense que son esprit néfaste a une mauvaise influence sur la population. Celui-ci va donc être muté d'office à Perpignan, à l'école Paul Bert. Les relations avec les peintres vont malgré cela s'approfondir, et désormais Ludovic va conseiller dans leurs achats les riches collectionneurs de la région. Il va ainsi découvrir une vraie aisance économique, car il est bien rémunéré pour ce rôle d'intermédiaire. Il va même décider de quitter l'enseignement en 1942. Il veut être maître de son temps, et ses nouveaux revenus le lui permettent. La période qui s'ouvre de 1943 à 1946 constitue pour Massé une deuxième entrée en littérature. Le livret de famille, d'abord édité par les Cahiers Jacques Doucet, va être repris par Fasquelle et constituer le tome 1 de la trilogie des Grégoire. De plus, il va éditer Le Vin Pur chez Flammarion, premier livre avec cet éditeur, mettant ainsi un terme à sa première trilogie rurale. Il pense depuis longtemps à un nouveau roman, Le Refus. Il va l'écrire en 1945. Ce sera le résumé de sa pensée. Il y affirmera son refus de l'engagement qui n'est pour lui qu'une duperie. Mais père de deux enfants, il se sent menacé par l'occupant et part se réfugier en Couserans, dans l'Ariège, de juin à septembre 44. C'est là qu'il va vraiment concevoir son roman pamphlet. En octobre 44, c'est le retour à Perpignan. La lecture de L'homme foudroyé lui permet de renouer ses liens avec Blaise Cendrars. En 1945 va paraître Fumée de village, tome 2 des Grégoire, où l'auteur perçoit avec une grande finesse les ressorts cachés de l'âme humaine. Le tome 3, La fleur de la jeunesse, paraît en 48 et reçoit un bel accueil. Henri Poura lui demande pour sa collection d'écrire un livre symbolisant la Catalogne française. Ce sera L'honneur des brigands, où il évoquera les Trabucaires, ces bandits de grand chemin qui ont semé la terreur dans la région au XIXe siècle et dont la geste y est toujours vivante et légendaire. Il écrit des contes, mais le manuscrit des contes en sabots est refusé par Flammarion. Il ne paraîtra qu'en 1959 à l'amitié par le livre. Le silence de Gallimard au sujet du manuscrit du refus l'inquiète. Ludovic se sent brutalement vieux et las. Il ne parvient plus à trouver un réconfort dans le travail. Commence alors la période la plus sombre qu'a connue l'écrivain. Son engagement littéraire était en fin de compte un engagement d'ordre éthique. Avec le refus, il avait trouvé sa vision de l'homme et du monde. Mais il avait atteint la solitude. L'œuvre est interrompue. Il n'y aura pas d'œuvre de vieillesse. La mort de Louise, le 10 juin 58, le laisse déchiré et désemparé, sevré d'amour et de protection. Il s'occupe alors de peinture et élargit sa collection personnelle. Il vit dans son appartement de la rue Vauban à Perpignan, entouré de livres et d'œuvres d'art, des peintures de Dufy, des sculptures de Mayol et des œuvres d'Atlan ou de Schneider. En 1962, Le Refus paraît enfin édité par l'amitié par le livre. Ce livre apparaît comme un pamphlet, mais n'en présente pas moins une chronique de l'occupation, de la libération et de l'épuration. En 1969, ce sera la publication de Simon Rocker et, découragé par les difficultés de l'édition, il s'éloigne au fil des années de la littérature. Seul restera le plaisir de ses découvertes en peinture dans le domaine de l'art brut. Ludovic Massé s'éteint discrètement un soir d'été, le 24 août 1982. Il avait 82 ans. Il avait eu la joie de voir la réédition du Mas et Zoubel qui le fit sortir de l'oubli. Son fils Claude va alors tout faire pour amorcer le mouvement de redécouverte de l'œuvre de son père. Tolstoï, L'homme de vérité, et Raoul Dufy en aquarelle et en eau-forte, les deux derniers inédits publiés après sa mort, apportent les dernières touches à l'autoportrait de leur auteur. Cet écrivain né poète a su créer un univers romanesque très personnel, dans lequel les passions humaines et les forces naturelles jouent jeu égal dans la vie et la mort. Un climat poétique s'installe au fil des œuvres, un lyrisme qui chante les forces de la vie, de la terre-mère, l'honneur du peuple dans sa dignité. Il n'a jamais été paysan, mais il en a profondément ressenti, avec une angoisse vraiment paysanne, la précarité, les misères et les servitudes de la vie rustique. Il est la mémoire poétique du pays nord-catalan. Ainsi s'achève cette trop rapide présentation de Ludovic Massé, mais vous pouvez, si vous le souhaitez, l'approfondir en lisant sa biographie par Bernadette Turmaud, Ludovic Massé, un aristocrate du peuple, dont je me suis largement inspiré. Bonne lecture, Almeskebe.